Je pense pas que c'était voulu.
Il a pas fait référence à ça jamais?
Oui, il a fait référence à ça.
OK.
C'était peut-être voulu parce qu'il y a quelqu'un qui l'a averti qu'on voyait son étiquette, là, mais c'est quand même très drôle.
Mais parlant de fraude, mon prochain invité, non, 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 ça, non. Régent Bergeron, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Écoute, Régent, es-tu encore dans les médias au moment où on se parle? Parce que je sais que t'es grand chum avec Vez, mais moi, ça fait quand même un bout de
compte. Je suis rendu golfeur et joueur de tennis à temps plein.
Ah, tu parles d'une affaire.
Et c'est plate encore, Lynn.
Et c'est, ouais, non, non, t'as quand même un horaire intéressant. C'est Vez qui nous a dit, écoute, Régent, c'est vraiment un crack pour prendre des bons mots, d'astronomie et de particulièrement la conquête de l'espace, pour être précis, parce que Vez m'a bien dit que c'était deux zones, puis il a raison.
Oui.
Moi, je suis un tripeux de... J'ai lu des livres de Hubert Reeves sur ça, l'astronomie. Mm-hmm. Fait triper, mais la conquête de l'espace, pas tant familier avec ça. Ça fait que je suis vraiment content que tu sois là. Dis donc, Régent, c'était le 50e il y a quelques jours d'Apollo.
Ben, en fait, c'est demain là, que le premier pas sur la Lune s'est fait il y a 50 ans. 22h50, à peu près. Tout le monde était devant la télé. C'est le 20 juillet. Mais par contre, si tu lis des articles qui viennent de France, c'est le 21.
Ouais.
Parce qu'eux autres, avec le décalage, les Français sont quelques heures en retard là-dessus.
Le 18, là.
Demain, 18, c'est-à-dire samedi, c'est ça, je voulais dire samedi. Ouais. Je me pense à vendredi. Mais moi, j'ai plus de jours.
Non, c'est dimanche, la journée longue. Mais dis-moi, c'est quoi le contexte de ça? Parce que honnêtement, il y a une question qu'on se pose jamais, c'est pas vrai, là, mais il reste que quand on parle de conquête de l'espace puis la navette, c'est rare que tu as du monde qui vont dire combien ça coûte, on sait pas combien ça. On dirait que c'est comme c'est un département qui coûte des milliards, mais on s'en fout. Mais il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, ça nous apparaît comme si de rien n'était.
Écoute, il y a un contexte historique qui était le régime socialiste de l'Union soviétique versus le capitalisme aux États-Unis.
On parle de quelle année à peu près? Là?
Écoute, c'est années 50, fin des années 50.
Début de guerre froide.
Oui, guerre froide. Okay. Parce que, bon, même si on remonte un petit peu plus loin, la guerre entre l'Union soviétique et les Américains pour la conquête de l'espace a vraiment commencé à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Allemands avaient comme membre de leur parti un certain Werner von Braun. Et von Braun était quelqu'un qui rêvait d'envoyer des fusées dans l'espace. Mais à un moment donné, Hitler a dit « Ce serait le fun que tu nous fasses des fusées pour lancer sur Londres. » Et donc, il est devenu membre du parti nazi.
Okay.
Et il y avait une base à Peenemünde où on fabriquait les fameux V2, ces missiles qu'on envoyait sur Londres pour terroriser Londres. Mm-hmm. Et c'est von Braun qui a conçu ça. Donc, quand la guerre s'est achevée, les Russes d'un bord et les Américains de l'autre bord ont dit « Faut ramasser von Braun et sa gang parce qu'ils vont venir nous faire des missiles pour faire, en termes de guerre froide. » Donc, c'était la course à qui irait chercher von Braun. Ce sont les Américains qui l'ont réussi à l'avoir. Et lui et quelques autres de son équipe sont arrivés à Huntsville, en Alabama. Et on leur a demandé de travailler sur des missiles pour contrer l'armement russe de l'autre côté. Russe, en fait, soviétique dans le temps. Et évidemment, là est arrivé le fait que l'Union soviétique a décidé d'envoyer, d'abord, un premier satellite, Sputnik. Et quand Sputnik a été lancé et qu'il s'est mis à tourner autour de la Terre et qu'il y a un bip soviétique autour de la Terre, ça a été la catastrophe pour les Américains. Parce que là, on avait peur qu'éventuellement les Russes envoient des missiles dans l'espace et attaquent depuis l'espace. C'était là dans la conception des gens comme ça. Donc, ça a fait en sorte que les Américains ont dit à von Braun, on pourrait peut-être faire aussi d'autres choses, envoyer des fusées dans l'espace. Et là, c'est là que von Braun a commencé à travailler pour développer un programme spatial pour les Américains. Mais merci à l'Union soviétique qui a botté le derrière des Américains avec des premières. Ça n'arrêtait pas. Ils ont envoyé le premier satellite, Sputnik. Mmh. Ont envoyé le premier être vivant dans l'espace, une chienne qui s'appelait Laika. Mmh. Après ça, ils ont envoyé Yuri Gagarin, qui a été le premier homme. Ils ont réalisé une première sortie dans l'espace avec Leonov. Ils ont envoyé la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Et en fait, c'était plein de premières. Ils ont envoyé le premier véhicule aussi avec deux cosmonautes à bord. Bref, les Russes ont pris l'avance. Ils ont envoyé d'abord Gagarin. Les Américains ont répliqué avec un saut de puce qu'on appelait Alan Shepard. On l'a envoyé. Il n'a même pas été en orbite. Il est juste sorti de l'atmosphère un peu. Puis il est redescendu. Il a vécu l'apesanteur peut-être pendant 15 minutes, et là, les Américains étaient bien contents, mais on était encore loin des Russes. Et au retour de Shepard, et c'est là que ça s'est joué, John Kennedy, c'est là qu'il a fait la fameuse citation « Avant la fin de la décennie, nous enverrons sur la Lune un homme et nous le ramènerons sain et sauf. » Et là, ça a été comme la déclaration de guerre, c'est qui arrivera le premier sur la Lune.
Okay.
Et après ça, ben, on a eu les choses qui se sont enchaînées. John Glenn qui a été en orbite. Après ça, il y a eu le programme Gemini avec deux astronautes à bord. Mais pendant ce temps-là, les Russes continuaient aussi à donner une rince aux Américains. Mm-hmm. Et après ça, il y a eu le programme Apollo qui est arrivé. Et là, c'était le programme qui était lancé pour envoyer les Américains sur la Lune. Et c'est vraiment à ce moment-là que les Américains ont vraiment repris de l'avantage et sont arrivés sur la Lune.
Est-ce qu'au moment où Armstrong a mis le pied sur la Lune, les Russes étaient loin d'être capables d'envoyer quelqu'un sur la Lune?
En fait, on a pensé que les Russes étaient très près d'envoyer quelqu'un autour de la Lune quelques mois avant, en décembre 68.
En même temps qu'Apollo 8?
En même temps qu'Apollo 8, parce que les Américains ne devaient pas envoyer Apollo 8 autour de la Lune. C'était pas ça qui était prévu. Mais les informations des services de renseignement américains disaient « Les Russes sont en train de monter une fusée gigantesque pour essayer d'aller faire le tour de la Lune et revenir. » Pas nécessairement poser quelqu'un, mais ils se disaient...
Le fameux slingshot, là.
Le slingshot. Et ils disaient « Les Russes pourront dire, nous autres, on est allés à la Lune, même si nous, on se pose.
Ouais, » ouais.
Donc, ils ont changé les plans. Au mois d'août, il n'y avait pas de mission pour aller sur la Lune. Et il y a quelqu'un qui a dit, on change la mission, on s'en va sur la Lune. Il n'y avait pas de logiciel disponible, il n'y avait rien. Et du mois d'août jusqu'à décembre, ils ont travaillé pour faire en sorte qu'on puisse envoyer Apollo 8 autour de la Lune. Et la grosse crainte des autorités américaines, c'était de gâcher à tout jamais la fête de Noël. Parce que ça se passait à Noël, ils étaient autour de la Lune.
Ouais, ils
mais ils ont dit.
Le 20 décembre, 20 ou 21 décembre.
Et ce qu'ils disaient, cette mission-là a. En fait, il y avait trois possibilités. 33 % de réussite. 33 % qu'on n'est pas capable d'aller à la Lune, mais on ramène les astronautes. Et 33 % qui restent, qui ne reviennent pas. Et là, on se disait, les dirigeants américains disaient, avez-vous conscience que si jamais les astronautes meurent autour de la Lune, pendant la période de Noël, Noël ne sera jamais plus pareil en Amérique. Mm. Et là, il y avait cette grosse crainte-là, mais les gens de la NASA sont allés de l'avant quand même.
Okay.
Et c'est là qu'ils ont pris vraiment l'ascendant sur les Russes. Puis finalement, la fameuse fusée que les Russes préparaient, il y a eu des explosions, ils n'ont jamais été capables d'aller vers là.
Ben d'ailleurs, je pense que quand Apollo 11 est allé sur la Lune, quelques jours après, il y a une sonde russe.
C'est pendant qu'il
était là. Hein?
Les Russes voulaient, pour sauver un peu la face, envoyer une sonde qui aurait récupéré des échantillons et la faire revenir avant les astronautes américains. Mmh. Et ils auraient dit, c'est nous qui sommes allés chercher les premiers échantillons sur la Lune et les avoir amenés sur Terre. Mais finalement, la fameuse sonde s'est écrasée sur la Lune pendant que les astronautes américains étaient là. Et comme par hasard, elle s'est écrasée dans la mer des crises. Alors,
c'est quoi sur la mer des crises?
Parce que c'est comme les Américains se sont posés sur la mer de la tranquillité.
Oh, excuse, ça, c'est la Lune.
Sur la Lune.
Ça, c'est la Terre, la mer des crises.
Il y a une mer, en fait. Parce que les gens qui voyaient la Lune dans le temps, tu n'avais pas de télescope, tu pensais que c'était de l'eau.
Ouais.
Donc, il y a une mer qui s'appelle la mer des crises, et c'est là que la fameuse sonde soviétique s'est écrasée dans la mer des crises.
T'es-tu au courant aussi, c'est quoi le prochain projet de la NASA ou
d'autres
pays?
Les prochains. C'est sûr que, évidemment, on parle d'une mission vers Mars, éventuellement. C'est ça, c'est vers là qu'on s'en va. Mais évidemment, c'est sans cesse retardé. Écoute, quand les hommes se sont posés sur la Lune, on disait, dans les années 80, on sera en mesure d'aller sur Mars.
Mmh.
Évidemment, bon, c'était plus ou moins réaliste, mais aussi parce qu'à un moment donné, on a coupé les fonds aussi.
Okay.
On a trouvé qu'à un moment donné, les missions se faisaient de plus en plus répétitives, il y avait moins d'intérêt, et on a coupé des budgets, on a coupé des missions, puis on a comme arrêter ça, mais on a perdu toute l'expertise qu'on avait à la NASA pour des vols du genre d'Apollo. Donc, Maintenant, ce serait de retourner sur Mars. Mais pour retourner sur Mars, il faut qu'éventuellement tu retournes sur la Lune pour éventuellement faire une base, parce que tu pourrais, à partir de la Lune, faire des lancements qui sont beaucoup moins chers.
Okay.
Parce que lancer quelque chose depuis la Terre, c'est très coûteux et ça prend beaucoup de puissance. Donc, si tu as un avant-poste sur la Lune et que tu développes des choses, tu pourrais le faire. Mais là, on va à long terme, parce que un voyage vers Mars, là, calcule 2 ans, 2 ans et demi là, pour la mission. Donc, tu as plein de contraintes. La contrainte, d'abord, tu as vu comment David Saint-Jacques est revenu de sa mission de 6 mois.
Ouais.
Si tu pars, ça te prend 1 an et demi, tu arrives là-bas, mais que tu descends, c'est pas le pied que tu vas mettre sur la Lune, c'est ta face, parce que tu vas écraser.
Ben oui.
Donc, il faut que tu sois en mesure de créer des vaisseaux où tu seras capable de créer une rotation pour créer une pesanteur artificielle avec d'autres moyens.
C'est un défi, hein?
Pour garder les astronautes en forme. Et il y a l'aspect psychologique aussi. Parce que pour partir sur la Lune, tu pars avec ton vaisseau, mais tu ne perds jamais la Terre de vue. Mais lorsqu'ils seront à des millions de milles, tu n'auras plus aucune référence. Tu vas voir une étoile, qui va être la Terre, un point qui va être Mars, et tu as tout ça. Puis en plus, écoute, pour une mission comme ça, t'embarques, tu ne pars pas à deux. Donc, tu vas avoir un groupe de personnes qui devront vivre ensemble dans un espoir, dans un Dodge Caravan pendant 6 mois, sans se tomber sur les nerfs. Et tu sais, il y a plein de contraintes qui sont là. Mais donc, c'est beaucoup de développement à venir si on veut aller vers Mars.
Mais est-ce que l'intérêt de la Chine pour la conquête spatiale peut venir rebrasser un peu les cartes? Pis...
C'est certain. Parce que pour avancer, là, si tu n'as pas un adversaire,
c'est ça.
Tu dors. Tu sais, s'il n'y avait pas eu les Soviétiques pour pousser dans le derrière des Américains. Écoute, les Américains, là, ils se sont fait donner une rince au début du programme spatial et ça a choqué les Américains. John Kennedy a lancé le défi. Les gens étaient derrière le projet. On disait, ça coûtera ce que ça coûtera, on y va. Tu sais, un peu comme, écoute, quand t'avais le Nouveau Monde, t'avais les Espagnols, les Anglais et les Français.
C'est la même affaire.
Et c'était à qui irait chercher ces terres-là?
Total.
Parce qu'ils se disaient, il y a un intérêt. Si on réussit à développer un intérêt économique à un moment donné, à aller chercher certaines ressources ailleurs, et qu'il y a des adversaires qui sont là, c'est sûr que ça peut donner une poussée au programme spatial, c'est clair. Mais par contre, tu sais, quand on parle des Anglais, des Espagnols et des Français, quand ils allaient à la conquête du Nouveau Monde, ils s'en allaient aussi sans savoir ce qui arriverait.
Ah oui, grave.
Et c'était souvent ce qu'on envoyait, c'était des repris de justice, c'était des gens qui n'avaient rien à perdre.
Ouais.
Maintenant, on est dans un monde
où on a
notre confort. Est-ce qu'il y a, tu sais, oui, il va y en avoir qui vont vouloir y aller. Mais des fois, envoyer des bombes, ça peut aider parce qu'ils sont tough.
Donc, t'enverrais Vez dans un monde
réel. Oui, mais il était un peu douillet. Moi, j'ai travaillé avec un peu. Il était un peu douillet. Mais écoute, c'est ça. C'est le programme, la conquête de l'espace, là, c'était dans le temps où le politically correct n'avait pas été inventé.
Ah, ça, c'est clair.
Et ça, c'était ça qui était passionnant parce que les astronautes, les premiers astronautes, là, écoute, c'était des pilotes d'essai. C'était des casse-coups, c'était des bons vivants. Une de leurs devises, c'était « working, driving, drinking ».
Ah ouais?
Oui. Les gars, tu le vois sur les images, les gars, il y en a qui fument. Et en plus, la vertu, des fois, est élastique. Quand il y a eu les 7 premiers astronautes de Mercury, il y a des filles qui se vantait d'avoir couché avec les 7.
Oh! Ah.
Et il y a un des 7 qui a dit, ça, c'est impossible.
Ah!
Parce qu'il n'y en a pas une qui peut coucher avec John Glenn. Il est fidèle à sa femme comme c'est pas possible, mais c'est un des 7 qui a dit ça.
Mm. Ah oui?
Fait qu'il se déclarait coupable. Fait qu'il dit, mais parce que John Glenn était l'homme parfait. Là.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est ça qu'on voudrait. Puis l'autre problème aussi, tantôt je reviens sur Mars, l'autre problème qu'on aura sur Mars, c'est « ça va être quoi la phrase? »
Dans quel sens? Pour battre un petit pas pour l'homme?
Oui, mais là, tu sais, un petit pas pour l'homme, c'est Neil Armstrong qui l'a décidé, phrase-là.
Ouais.
Ça n'a pas été scripté.
Non.
Là, ils vont avoir du monde pour l'écrire, mon vieux. Il va t'avoir un débat là-dessus.
Les réseaux sociaux vont exploser.
Je pense que le voyage pourrait être retardé éventuellement d'un an, juste pour trouver la phrase.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Et la composition de l'équipage. Parce qu'il faudrait que tu aies un gaucher, faudrait que tu aies un droitier.
Un noir.
Oui, faudrait que tu aies des... Blanc, et là, ce bleu. Sera qui mettra le premier? Ouais. Ils vont être mieux de faire un comité.
Ton affaire de phrase, je trouve ça vraiment bon, Régent. On va demander 25-2-2-6, d'après vous, quand le premier homme ou femme va débarquer sur Mars, donc dans, mettons, 15 ans, quelle devrait être la phrase? Et le gagnant, on va avoir un prix, hein, Vez? On va avoir, peut-être pour les capitales? On pourrait envoyer les gens le 25 juillet voir le match des capitales avec le spécial Soirée Country.
On a un gagnant à faire, là?
Oui, oui.
Ben oui.
Bon, ben alors, c'est la meilleure phrase. 25-2-2-6. Quelle sera la phrase qui va être dite par la personne qui va atterrir sur Mars?
Je vais mettre le pied
quelle bonne
sur
idée
Mars.
De Jean Bergeron.
Si tu veux être sûr et certain de repartir des théories du complot, il faut absolument que la première personne qui met le pied sur Mars dise fake news.
Mais tu sais que la preuve que ça va pas être scripté, la première phrase d'Armstrong, parce qu'il y en a qui disaient wow, c'est bien beau de dire, mais ça a été scripté. La preuve que la NASA ne disait pas aux astronautes quoi dire, c'est la mission suivante d'Apollo 12. Parce que Armstrong a dit, c'est un petit pas pour moi, mais un bon géant pour l'humanité. Mais Pete Conrad, qui était le commandant de la mission suivante, mesure 5 pieds 2 à peu près. C'est un petit cul. Et il avait pris le pari avec une journaliste italienne qui lui démontrerait que la NASA leur dit pas quoi dire. Quand il est arrivé en bas, il dit « C'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'est un grand pas pour moi. »
C'est hot!
Oui!
J'en reviens
et
pas.
L'Italienne, il n'a jamais payé son 500$.
Pourquoi? C'est un scandale. Oui. Régent Bergeron, merci beaucoup de ta visite. Un expert de la conquête de l'espace, c'était vraiment génial.
Un passionné, et... surtout expert, oui. J'aime pas
non,
ça.
Non, t'as raison, un passionné.
J'aime ça.
Non, mais on a appris plein d'affaires, c'est vraiment cool.
Ben, parfait.
On a marfé sur Mars.
On a marfé